Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Les vrais acteurs sont ainsi faits. Ils sont la proie de leur art. Et vous pourriez deviner leur emploi rien qu'à les regarder vivre.
Laissez-moi deviner. Mademoiselle joue les coquettes, n'est-ce pas?
Oui.
Bravo! Elle les joue même à la ville aussi bien qu'à la scène.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas, en effet.
Toi, tu peux parler.
Joueriez-vous les coquets?
Non, monsieur. Les amoureux.
Ça peut pas faire de mal.
Et moi? Quel est mon emploi, monsieur?
Soubrette, vous riez tout le temps.
C'est que les galants prêtent souvent à rire.
Quand je la laisse faire.
Voilà un mot de Duègne.
Ah, oh, vous êtes très doué. Notre Duègne, en effet, autrement dit Dame Léonarde, qui protège tour à tour le vice et la vertu.
Tour à tour ou simultanément.
C'est le valet qui a parlé.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Vous avez l'œil du maître ou l'oreille? Oui, monsieur, on me nomme Scapin pour vous servir.
Un hurlement prolongé de chien vint bientôt confirmer qu'il se passait quelque chose d'insolite aux environs du castel, d'ordinaire si isolé. Qui pouvait à cette heure venir troubler la solitude du manoir et le silence de la nuit? Quel voyageur mal avisé heurtait cette porte qui ne s'était pas ouverte depuis si longtemps? Qui demandait à être reçu dans cette auberge de la famine, dans cet hôtel de misère et de lésine? Le jeune baron de Sigognac descendit l'escalier, protégeant sa lampe avec sa main contre les courants d'air qui menaçaient de l'éteindre. Il abaissa la barre de la porte, entr'ouvrit le battant mobile et se trouva en face d'un étrange personnage, au nez duquel il porta sa lampe. Une assez grotesque figure se dessina sur le fond d'ombre. « Daignez m'excuser, noble châtelain, si je viens frapper à la poterne de votre forteresse à une heure avancée. Nécessité n'a pas de loi et force les gens du monde les plus polis à des barbarismes de conduite. » « Que voulez-vous ?» interrompit sèchement le baron, ennuyé par le verbiage du vieux drôle. « L'hospitalité pour moi et mes camarades, des princes et des princesses, des Léandres et des Isabelles, des docteurs et des capitaines qui se promènent de bourg en ville sur le glorieux chariot de Thespis, lequel chariot, traîné par des bœufs à la manière antique, est maintenant embourbé à quelques pas de votre château. » « Si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes des comédiens de province en tournée et vous avez dévié du droit chemin ?» « On ne saurait mieux élucider mes paroles, » répondit l'acteur. « Puis-je espérer que votre seigneurie m'accorde ma requête ?»« Quoique ma demeure soit assez délabrée et que je n'ai pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air et par une pluie battante. » Le pédant, car tel paraissait être son emploi dans la troupe, s'inclina en signe d'assentiment. Les bœufs dételés allèrent prendre place à l'écurie, les comédiennes sautèrent au bas de la charrette, faisant bouffer leurs jupes fripées, et montèrent, guidées par Sigognac, dans la salle à manger, la pièce la plus habitable de la maison. Les saltimbanques, bien qu'habitués par leur vie errante aux gîtes les plus divers, regardaient avec étonnement cette étrange logis que les hommes semblaient avoir abandonnée depuis longtemps aux esprits, et qui faisait naître involontairement des idées d'histoire tragique. C'est par l'arrivée impromptue d'une troupe de comédiens ambulants que s'ouvre l'un des plus célèbres romans de Cap et d'Épée, « Le Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier. Paru en 1863, ce récit d'aventure parsemé de coups de théâtre et de coups du sort a bien failli ne jamais voir le jour. Alors que la publication est annoncée pour 1836, l'écrivain mettra 25 ans à achever son œuvre. En 1851, un procès oppose l'auteur à la Revue des Deux Mondes qui lui a versé une avance et pour laquelle il n'a encore rien écrit. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1853, que Théophile Gautier en livre les premiers chapitres, mais à un concurrent, la Revue de Paris. Il faudra patienter encore 10 ans avant de connaître la fin des péripéties du baron de Sigognac, ce jeune gascon désargenté qui part faire fortune sous le masque du capitaine Fracasse. Quelle merveille, sois convaincu que jamais tu n'as eu plus de talent, écrit Flaubert à son ami, à la lecture de l'œuvre tant attendue. S'inspirant du roman comique de Scarron, Théophile Gautier y rend hommage à ses grands maîtres, son contemporain Victor Hugo, à qui il emprunte un personnage de bohémienne comparable à l'Esmeralda de Notre-Dame de Paris, mais aussi Pierre Corneille, avec le personnage de Matamor, tout droit sorti de l'illusion comique, ou encore le grand Cervantes et son mémorable Don Quichotte. Ce soir, ouvrons ce récit baroque, mélange de fantaisie et de fantastique, qui fait l'éloge du théâtre et fait revivre la tradition de la Commedia dell'arte, tout en pastichant au passage quelques célèbres répliques de Molière, Cyrano de Bergerac ou le grand William Shakespeare. Revenons au château et retrouvons le jeune aristocrate en bonne compagnie. Le lendemain matin, Cigognac fait plus ample connaissance avec ses hôtes, s'excusant de la pauvreté du gîte. Étourdi et séduit par la présence des femmes, il se réjouit de voir la demeure familiale revivre au contact de cette joyeuse troupe. Il y a là Hérode, le directeur, Blasius, le pédant, Scapin, le valet, Isabelle, la belle ingénue. Le jeune homme croit encore rêver quand un choix cornélien se présente à lui. « Je regrette, dit Cigognac, que l'état de délabrement de cette demeure ne m'ait pas permis de vous recevoir d'une façon plus convenable. Mais comme ma pauvreté ne vient que des dépenses qu'ont faites mes ancêtres à la guerre pour la défense de nos rois, je n'ai point à rougir. » « Non, certes, monsieur, répondit l'Hérode de sa voix basse, la noblesse a des trous à son manteau, mais par ces trous on voit l'honneur. » « Ce qui m'étonne, ajouta Blasius, c'est qu'un gentilhomme accompli, comme paraît l'être monsieur, laisse ainsi se consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut venir le chercher, quelque envie qu'elle en ait. Si elle passait devant ce château, elle continuerait son chemin, le croyant inhabité. Il faudrait que monsieur le baron allât à Paris, l'œil et le nombril du monde, le rendez-vous des beaux esprits et des vaillants, l'Eldorado des Espagnols français, la terre bénite éclairée par les rayons du soleil de la cour. Là, il ne manquerait pas d'être distingué selon son mérite. » Ou par quelque action d'éclat dont l'occasion se trouverait infailliblement. Si notre humble char à bœufs ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie, venez avec nous à Paris, puisque notre troupe s'y rend. » Une faible rougeur monta aux pommettes de Cigognac, moitié de honte, moitié de plaisir. Si, d'une part, l'orgueil de son rang se révoltait en lui à l'idée d'être l'obligé d'un pauvre saltimbanque, de l'autre, sa naturelle bonté de cœur était touchée d'une offre franche qui répondait si bien à son secret désir. Il craignait en outre de manquer peut-être une occasion qui ne se représenterait jamais. Il flottait, incertain entre le oui et le non, lorsqu'Isabelle, s'avançant d'un air gracieux, dit cette phrase qui mit fin aux incertitudes du jeune homme. « La fortune est femme. Et quoi qu'on la dise aveugle, elle distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite. Il ne s'agit que de se trouver sur son passage. Allons, décidez-vous. Venez avec nous et peut-être dans quelques années, les tours du château de Cigognac, coiffées d'ardoises neuves, feront une aussi fière figure qu'elles en font une piteuse. Et puis vraiment, cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hibou. » La douce lueur qui brillait dans les yeux d'Isabelle triompha de la répugnance du baron. L'attrait d'une aventure galante déguisait à ses propres yeux ce que ce voyage pouvait avoir d'humiliant. Seulement, Cigognac était-il amoureux d'Isabelle ? Il ne chercha pas à approfondir la chose. Aussi eut-il bien vite pris son parti et pria les comédiens de l'attendre un peu. Il alla consulter Pierre, son vieux domestique, et lui confia son projet. Le fidèle serviteur, quelque peine qu'il eût à se séparer de son maître, approuva la décision du jeune orphelin. « Que Dieu conduise votre seigneurie, dit Pierre en s'inclinant, et lui fasse relever la fortune de Cigognac. » Bientôt le cheval blanc fut scellé. Tout le monde était prêt. Au moment de quitter cette triste demeure, le baron se sentit le cœur oppressé. Il embrassa encore une fois du regard ses murailles noires de vétusté, les fenêtres de ses chambres dévastées qu'il avait parcourues comme le fantôme d'un château maudit. Ce faisant, il croisa le regard d'Isabelle, et la jeune fille chargea le sien d'une langueur si caressante que le baron se sentit rougir. Alors il oublia complètement les murs lézardés de son manoir, et le parfum de la bruyère, et la vibration de la cloche qui répondait toujours à ses appels mélancoliques, puis donnant une brusque saccade de bride à son cheval, il le fit se porter en avant d'une vigoureuse pression de bottes. Le combat était fini, Isabelle avait vaincu. Suivons Cigognac et ses amis sur la route. Lors d'une première étape à l'Auberge Bleue, le jeune baron côtoie pour la première fois les gens du voyage. La nuit venue, une mystérieuse fillette, une bohémienne du nom de Chiquita, tente en vain de voler les bijoux d'Isabelle. Le lendemain, la troupe reprend son chemin sans savoir qu'une inquiétante mésaventure les attend, orchestrée par Chiquita et son complice, un brigand du nom d'Agostine. Ancien comédien tombé dans la misère, celui-ci s'avère un piètre spadassin à la tête d'une armée de pacotilles. Voici une scène épique, digne des fanfaronnades d'un certain Don Quichotte. Cigognac marchait seul à côté du char. Il songeait aux grâces adorables d'Isabelle, dont la beauté et la modestie semblaient plutôt d'une demoiselle née que d'une comédienne errante, et il s'inquiétait de savoir comment il s'y prendrait pour s'en faire aimer, ne se doutant pas que la chose était déjà faite. Le matin commençait à grisonner. une étroite bande de lumière pâle s'allongeait au bord de la plaine. Si fort qu'il fut enfoncé dans sa rêverie, Cigognac ne put s'empêcher d'être préoccupé par un petit point brillant qui scintillait sous l'ombre encore noire d'un bouquet de sapins. Cependant, le chariot marchait toujours, et en se rapprochant de la sapinière, Cigognac crut démêler sur le bord du talus une rangée d'êtres bizarres, plantés comme en embuscade, mais à leur parfaite immobilité, il les prit pour de vieilles souches, et se prit à rire en lui-même de son inquiétude. Tout à coup, le point brillant sur lequel Cigognac tenait toujours les yeux fixés se déplaça. Un long jet de feu sillonna un flot de fumée blanchâtre. Une forte détonation se fit entendre et une balle s'aplatit sous le joug des bœufs qui se jetèrent brusquement de côté. À la détonation et à la secousse, toute la troupe s'éveilla en sursaut. Les jeunes femmes se mirent à pousser des cris aigus. Debout, à la tête du char d'où les comédiens s'efforçaient de sortir, Agostine, sa cape roulée sur son bras, son coutelas espagnol au poing, cria d'une voix tonnante « La bourse ou la vie ? Toute résistance est inutile. Au moindre signe de rébellion, ma troupe va vous arquebuser. » Pendant que le bandit de grand chemin posait son ultimatum, le baron, dont le généreux cœur ne pouvait admettre l'insolence d'un pareil maroufle, avait dégainé et fendait sur lui l'épée haute. Balançant le bras d'un mouvement sec, Agostine envoya sa lame au ventre de Cigognac. Une légère retraite de côté lui fit éviter la pointe meurtrière, et le couteau alla tomber à quelques pas plus loin. Agostine pâlit, car il était désarmé, et il savait que sa troupe d'épouvantail ne pouvait lui être d'aucun secours. Cependant, comptant sur un effet de terreur, il cria « Feu, vous autres !» Les comédiens, craignant l'embuscade, se réfugièrent derrière le chariot, où les femmes piaillaient comme des jets plumés vifs. Chiquita, qui avait suivi toute la scène cachée par un buisson dont elle écartait les branches, voyant la périlleuse situation de son ami, rampa comme une couleuvre sur la poudre du chemin, ramassa le couteau sans qu'on prît garde à elle, et se redressant d'un bond, le lança au bandit. Rien n'était plus fier et plus sauvage que l'expression qui rayonnait sur la tête pâle de la fillette. Des éclairs jaillissaient de ses yeux sombres, ses narines palpitaient comme des ailes d'épervier. Toute sa petite personne respirait indomptablement la haine et la révolte. Agostine balança une seconde fois le couteau, et peut-être le jeune baron de Cigognac eût-il été arrêté au début de ses aventures, si une main de fer n'avait saisi fort opportunément le poignet du bandit. C'était Hérode, le chef de la troupe, qui, passant derrière le bandit, avait rendu ce bon office à Cigognac. Tout à coup, Hérode poussa un cri.
« Mordius, est-ce une vipère qui me pique ? J'ai senti deux crocs pointus m'entrer dans la jambe. »
En effet, Chiquita lui mordait le mollet comme un chien pour le faire retourner. Hérode, sans lâcher Agostine, qui tentait de lui échapper par des secousses désespérées, secoua la petite fille et l'envoya rouler à 10 pas sur le chemin. Matamor, déployant ses longs membres articulés comme ceux d'une sauterelle, se baissa, ramassa le couteau et le mit dans sa poche. Pendant cette scène, le soleil émergeait petit à petit de l'horizon et les mannequins, sous ce rayon véridique, perdaient de plus en plus leur apparence humaine.
« Ah ça !» s'écria Matamor en escaladant le talus. « Ce sont des hommes de paille, habillés de guenilles, armés de ferrailles, excellents pour éloigner des cerises et des raisins. »
Et en 6 coups de pied, il fit rouler au milieu de la route les 6 grotesques fantoches qui se disloquèrent avec des gestes irrésistiblement comiques de marionnettes dont on a abandonné les fils. Les mannequins parodiaient d'une façon aussi bouffonne que sinistre les cadavres étalés sur les champs de bataille.
« Vous êtes conduit comme un héros de roman. »«
Oui, de roman comique. »
Pardon ?
Non, rien. Je pensais à Don Quichotte et ses moulins à vent. Ou mieux encore, au capitaine Fracasse, aux prises avec des épouvantails.
Il a raison. C'était qu'un péril en peinture. Des mannequins.
Peut-être, mais vous ne le saviez pas.
L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon.
La Madelon, l'aventure commence alors. Alors, de chaque matin, l'aventure commence alors. Que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence alors. Le vent nous guide en chemin, l'aventure.
Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière lave les mains.
Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous et à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière.
Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide le chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide le chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Martin.
Sigognac se montre fier et batailleur comme un matamor de comédie. Mais bientôt, un triste événement plonge les comédiens dans la tragédie. Quelque temps plus tard, les recettes ont fondu et l'entrée de l'hiver annonce des jours difficiles. Tiré par un maigre cheval, le chariot parvient tant bien que mal aux environs de Poitiers. Pour écrire la scène suivante, Théophile Gautier s'inspire des souvenirs d'un séjour qu'il a passé en Russie au cours de l'année 1858. 10 ans plus tard, Victor Hugo s'inspirera à son tour de ce passage pour un chapitre de L'homme qui rit. Mais revenons au XVIIe siècle et retrouvons nos personnages en bien mauvaise posture. La tempête augmentait. Chassée par le vent, la neige courait en blanche fumée, rasant le sol. Ahuri par les flagellations du blizzard, le cheval n'avançait plus qu'à grand-peine. Hérode le prit par le bridon. Le pédant et Sigognac poussaient à la roue. Scapin faisait claquer le fouet pour exciter la pauvre bête, car la frapper eût été cruauté pure. Quant au matamor, il était resté quelque peu en arrière, car il était si léger, vu sa maigreur phénoménale, que le vent l'empêchait d'avancer. Quoiqu'il eût pris une pierre en chaque main et rempli ses poches de cailloux pour se lester. Cette tempête neigeuse, loin de s'apaiser, devint si violente que les comédiens furent contraints, bien qu'ils eussent grande hâte d'arriver au village, d'arrêter le chariot et de le tourner à l'opposite du vent. Les ténèbres logent aisément les épouvantes, mais l'horreur blanche se fait moins comprendre. Cependant, rien de plus sinistre que la position de nos pauvres comédiens, pâles de faim, bleus de froid, aveuglés de neige et perdus en pleine grande route, au milieu de ce vertigineux tourbillon de grains glacés. Tous s'étaient blottis sous la toile de la bâche pour laisser passer la rafale et se pressaient les uns les autres afin de profiter de leur chaleur mutuelle. Enfin, l'ouragan tomba. Aussi loin que l'œil pouvait s'étendre, la campagne disparaissait sous un linceul argenté. « Où donc est Matamor ?» dit Blasius. « Est-ce que par hasard le vent l'aurait emporté dans la lune, comme Cyrano ?»«
En effet, » ajouta Hérode, « je ne le vois point. Il s'est peut-être blotti sous quelques décorations au fond de la voiture.
« Ohé, Matamor ! Secoue tes oreilles si tu dors et réponds à l'appel !»
Mais aucune forme ne s'agita sous le monceau de vieilles toiles.
« Diantre, » dit Blasius, « voilà qui est étrange, pourvu qu'il ne lui soit point arrivé malheur. »
« Sans doute, dit Sigognac, qu'il se sera, pendant le plus fort de la tourmente, abrité derrière quelques troncs d'arbres, et il ne tardera pas à nous rejoindre. » On résolut d'attendre quelques minutes, lesquelles passées, on irait à sa recherche. La nuit, qui descend si rapide aux courtes journées de décembre, était venue. La réverbération de la neige combattait les ténèbres du ciel, et par un renversement bizarre, il semblait que la clarté vint de la terre. De temps en temps, des flocons de neige secoués d'une branche d'arbre tombaient, pareils aux larmes d'argent des draps mortuaires. C'était un spectacle plein de tristesse. Un chien se mit à hurler. On sait combien est lugubre dans le silence nocturne cet aboi désespéré qui finit en râle et qui semble provoquer le passage de fantômes invisibles pour l'œil humain.
« Il doit être arrivé quelque chose à notre pauvre camarade !» s'écria Hérode. « Ce maudit cabot hurle comme pour un mort !»
Les femmes, le cœur serré d'un pressentiment sinistre, firent avec dévotion le signe de la croix. La bonne Isabelle murmura un commencement de prière.
« Il faut l'aller chercher sans plus attendre, » dit Blasius. « Il a dû s'égarer à travers champs. »
Un bout de la chandelle allumée au ventre de la lanterne jeta bientôt une lueur assez vive pour être aperçue de loin. Hérode, Blasius et Sigognac se mirent en quête, criant de toute la force de leurs poumons.
« Matamor ! Matamor ! Matamor !
Le silence seul répondait. Parfois un hibou offusqué de la lumière piaulait d'une façon lamentable. Enfin, Cigognac, qui avait la vue perçante, crut démêler à travers l'ombre, au pied d'un arbre, une figure d'aspect fantasmatique, étrangement raide et sinistrement immobile. Il en avertit ses compagnons qui se dirigèrent avec lui de ce côté en toute hâte. C'était bien en effet le pauvre Matamor. Son dos s'appuyait contre l'arbre et ses longues jambes étendues sur le sol disparaissaient à demi sous l'amoncellement de la neige. Son immense épée, qui ne le quittait jamais, faisait avec son buste un angle bizarre qui eût été risible en toute autre circonstance. Il ne bougea pas plus qu'une souche à l'approche de ses camarades. Blasius dirigea le rayon de la lanterne sur le visage de Matamor et il faillit la laisser choir tant ce qu'il vit lui causa d'épouvante. Le masque ainsi éclairé n'offrait plus les couleurs de la vie. Il était d'un blanc de cire. Le nez pincé aux ailes par les doigts noueux de la mort luisait comme un os de sèche et les yeux dilatés regardaient comme deux yeux de verre. À chaque bout des moustaches scintillait un glaçon dont le poids les faisait courber. Le cachet de l'éternel silence scellait ses lèvres, d'où s'étaient envolées tant de joyeuses rhodomontades, et la tête de mort sculptée par la maigreur apparaissait déjà à travers ce visage pâle, où l'habitude des grimaces avait creusé des plis horriblement comiques, que le cadavre même conservait, car c'est une misère du comédien que chez lui le trépas ne puisse garder sa gravité. Blasius, ému et ne pouvant retenir une larme qui, du bout de son nez rouge, tomba comme une perle de cœur, soupira d'une voix dolente en manière de raison funèbre. « Hélas, pauvre Matamor !» L'honnête pédant, en disant ces mots, ne se doutait pas qu'il répétait les expresses paroles d'Hamlet, prince de Danemark, maniant la tête d'Yorick, ancien bouffon de cour, ainsi qu'il a père de la tragédie du sieur Shakespeare, poète fort connu en Angleterre. Le lendemain, à la nuit tombante, les comédiens ont enterré leurs camarades en secret dans un terrain vague. Mais, chassés par les injures des villageois, ils sont contraints de reprendre la route. Le roman de Théophile Gautier se situe dans les années 1640, sous le règne de Louis XIII, une génération avant Molière. À l'époque, les comédiens sont encore considérés comme des créatures impies, bannies de l'Église. Retrouvons notre troupe qui, après un dîner de fortune, s'interroge sur son avenir.
Mais David, dit Hérode, de nous arrêter au premier village que nous rencontrerons. On nous prêtera bien quelques granges ou quelques étables. Scapin battra la caisse devant la porte en promettant un spectacle extraordinaire aux pâteaux ébahis, avec cette facilité de payer leur place en nature. Un poulet, un quartier de jambon ou de viande, un broc de vin donneront droit aux premières banquettes. Cela ne nous remplira pas la bourse, mais bien le ventre, chose importante.
Mais quelle pièce jouerons-nous, dit Scapin.
Notre répertoire est fort détraqué, il faudrait quelques bonnes farces réjouissantes, avec force bastonnade, coups de pied au cul et autres bouffonneries à l'italienne. Les rhodomontades du capitaine Matamor eussent merveilleusement convenu. Par malheur, Matamor a vécu et ce n'est plus qu'au verre qu'il débitera ses tirades.
Lorsque Scapin eut dit, Cigognac fit signe de la main qu'il voulait parler. Une légère rougeur, dernière bouffée de l'orgueil nobiliaire, colorait son visage pâle ordinairement. Les comédiens restèrent silencieux et dans l'attente.
« Si je n'ai pas le talent de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade et veux l'être tout à fait. Aussi bien j'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile dans l'adversité. D'ailleurs, qui se soucie encore des Cigognac au monde? Mon manoir croule en ruine sous la tombe de mes aïeux. L'oubli couvre mon nom jadis glorieux. Peut-être un jour la vie reviendra-t-elle avec le bonheur à cette triste masure où se consumait ma jeunesse sans espoir. En attendant, vous qui m'avez tendu la main pour sortir de ce caveau, acceptez-moi franchement pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Cigognac. Je plie mon titre de baron et le mets au fond de mon porte-manteau comme un vêtement qui n'est plus de mise. Ne me le donnez plus. Nous verrons si, déguisé de la sorte, je serai reconnu par le malheur. Donc je succède à Matamor et prends pour nom de guerre... « Le capitaine Fracasse !»«
Vive le capitaine Fracasse !» s'écria toute la troupe en signe d'acceptation. « Que les applaudissements le suivent partout !»
Pour un novice, Cigognac ne jouait point trop mal, et l'on sentait qu'il se formait vite. Il avait la voix bonne, la mémoire sûre, et l'imagination assez lettrée pour ajouter à son rôle ses répliques qui naissent de l'occasion et donnent de la vivacité au jeu. La pantomime le gênait davantage, étant fort entremêlé de coups de bâton auxquels révoltait son courage. Et cependant, il se courrouçait malgré lui, faisait terribles grimaces, horrifiques froncements de sourcils et regards torves.
Puis, se rappelant tout à coup l'esprit de son rôle, il reprenait une physionomie lâche, effarée et subitement couarde qui donnait du relief à son jeu. Après une représentation, Blasius, qui le regardait avec l'attention perspicace d'un vieux comédien expert, lui dit en s'approchant de lui « Vous avez joué d'une façon admirable et fantasque, mais il ne faut pas se livrer de la sorte. Un tel feu vous consumera bientôt. L'art du comédien est de se ménager et de ne présenter que les apparences des choses. » Il doit être froid en brûlant les planches et rester tranquille au milieu des plus grandes furies. Jamais acteur n'a représenté si au vif l'emphase, l'impertinence et la folie de son masque, et bientôt vous emporterez dessus tous autres la palme comique. Mais gardez de corriger en vous ces mouvements qui viennent de votre nature. Ils sont très bons et produiront une variété nouvelle de Matamore. Cette méthode vaut mieux que ces titubations de jambes, écarquillements d'yeux et autres grimaces plus simiesques qu'humaines par lesquelles les mauvais comédiens sollicitent le rire du public et perdent l'art. N'oubliez pas, mon ami, l'art est long et la vie est courte.
Enfant de clown et d'écuyère, il était né sous chapiteau. Entre la lionne et la panthère, on mettait son berceau. Il a grandi parmi les nôtres, dès que son âge lui permit de poser un pied devant l'autre, une voix lui a dit « Petit, tu es né, saltimbanque, de ville en ville tu iras, jongle avec tout ce que tu as, mais si tu manques, 100 fois tu recommenceras. » Quand il voulait lancer des balles, elles ne tombaient pas dans ses mains. Quand il sautait sur un cheval, c'était toujours trop loin. En équilibre sur la table, il était pris par le tournis. Chacun le disait incapable de gagner sa vie. Petit, tu es né, saltimbanque, il faut qu'il rie. Il faut qu'ils pleurent, qu'ils applaudissent, qu'ils aient peur. Mais si tu manques, pour nous tu seras un voleur. Alors en désespoir de cause, il a jonglé avec les mots. Et la musique et d'autres choses, on a crié bravo. On le réclamait à tue-tête sur les pistes du monde entier. Dans son numéro de poète, il était adoré. Petit, tu es né, saltimbanque, méfie-toi de ces pistes-là. Quand ton numéro passera, si tu le manques, on ne te ramassera pas. Car tous ces mots, quand on les jette, ils rebondissent n'importe où. De cœur en cœur, de tête en tête, ils en deviennent fous. Ils te reviennent de la salle, emplis d'espoirs ou de rancœur. Tu étais enfant de la balle et te voilà penseur. Laissez-moi rester, saltimbanque. J'aime la lumière et le feu, les tours et les mots dangereux. Toujours je manque, mon numéro n'est pas fameux. Je jongle avec ce que je peux.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Isabelle. Isabelle, j'ai pris une décision et je vais être très heureux ou très malheureux. Tout dépendra de votre réponse.
Qu'allez-vous me demander ?
De devenir ma femme.
Bientôt pris au jeu de l'amour et du hasard, Cigognac se découvre un terrible rival. La troupe se produit enfin à Poitiers et s'installe à l'auberge aux Armes de France. Penchée à la fenêtre de sa chambre, Isabelle attire l'attention d'un jeune cavalier qui passe dans la rue. Un peu plus tard, alors que les comédiens se préparent pour une répétition, Sigognac affronte pour la première fois l'orgueilleux duc de Vallombreuse, qui s'est juré de conquérir la belle ingénue. Vallombreuse, suivie de son ami Vidalinck, n'avait eu garde de manquer cette occasion de voir Isabelle. Il la trouva plus jolie encore de près que de loin, et sa passion s'en accrut d'autant. Ce jeune duc s'était adonisé pour la circonstance, et de fait, il était admirablement beau. Il s'était placé silencieusement près de la toilette d'Isabelle, son bras appuyé sur le cadre du miroir de manière à ce que les yeux de la comédienne, obligés de consulter la glace à chaque minute, dussent souvent le rencontrer. C'était une manœuvre savante et de bonne tactique amoureuse. Il voulait, avant de parler, frapper un coup par sa beauté, sa mine altière et sa magnificence. Isabelle, qui avait reconnu le jeune audacieux de la ruelle et que ce regard d'une ardeur impérieuse gênait, gardait la plus extrême réserve et ne détournait plus sa vue du miroir. Elle ne semblait pas s'être aperçue qu'il y avait là, planté devant elle, l'un des plus beaux seigneurs de la France. Mais c'était une singulière fille qu'Isabelle. Vallombreuse prit son parti brusquement et dit à la comédienne « N'est-ce pas vous, mademoiselle, qui jouez Sylvie dans la pièce de Monsieur de Scudéry ?»« Oui, monsieur, répondit Isabelle qui ne pouvait se soustraire à cette question habilement banale. « Jamais rôle n'aura été mieux rempli, » continua Vallombreuse. « S'il est mauvais, vous le rendrez bon. S'il est bon, vous le ferez excellent. Heureux les poètes qui confient leurs vers à ces belles lèvres. » Sigognac, ayant achevé de s'habiller dans sa loge, rentra dans la chambre des actrices pour attendre que la répétition commençât. Il était masqué et avait déjà bouclé le ceinturon de la grande épée, héritage du pauvre Matamor. Sa cape écarlate déchiquetée flottait bizarrement sur ses épaules et le bout de l'épée en relevait le bord. Pour se conformer à l'esprit de son rôle, il marchait la hanche en avant et fendue comme un compas, d'un air outrageux et provoquant, comme il sied à un capitaine fracasse. « Vous êtes vraiment très bien, » lui dit Isabelle qu'il vint saluer. « Et jamais capitaine espagnol n'eut mine plus superbement arrogante. » Le duc de Vallombreuse toisa avec la plus dédaigneuse hauteur ce nouveau venu à qui la jeune comédienne parlait d'un ton si doux. « Voilà apparemment le faquin dont on la prétend amoureuse, » se dit-il à lui-même tout enfielé de dépit, car il ne concevait point qu'une femme pût hésiter un instant entre le jeune et splendide duc de Vallombreuse et ce ridicule histrion. Au reste, il fit semblant de ne pas s'apercevoir que Sigognac fût là. Il ne comptait pas plus sur sa présence que celle d'un meuble. Pour lui, ce n'était pas un homme, mais une chose. Et il agissait devant le baron avec la même liberté que s'il eût été seul, couvant Isabelle de ses regards enflammés, qui s'arrêtaient sur une naissance de gorge laissée à découvert par l'échancrure de la chemisette. Isabelle, confuse, se sentit rougir malgré elle, sous ce regard insolemment fixe, et elle se hâta de terminer sa toilette pour s'y dérober, d'autant plus qu'elle voyait la main de Sigognac, furieux, se crisper sur le pommeau de son épée. Elle posa une mouche au coin de la lèvre et fit mine de se lever pour passer sur le théâtre, car l'Hérode, avec sa voix de taureau, avait déjà appelé plusieurs fois. « Permettez, mademoiselle, » dit le duc, « vous oubliez de mettre une assassine. » Et Vallombreuse, plongeant un doigt dans la boîte à mouches posée sur la toilette, en retira une petite étoile de taffetas noir. « Souffrez, » continua-t-il, « que je vous la pose ici, tout près du sein. Elle en relèvera la blancheur et paraîtra comme un grain de beauté naturelle. » Son doigt moucheté allait effleurer la gorge de la jeune comédienne lorsqu'une main de fer s'abattit sur son bras et le maintint comme dans un étau. Le duc, transporté de rage, retourna la tête et vit le capitaine Fracasse campé dans une pose qui ne sentait point son poltron de comédie. « Monsieur le duc, » dit Fracasse, « mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin des services de personne. » Cela dit, il lâcha le bras du jeune seigneur dont le premier mouvement fut de chercher la garde de son épée. En ce moment, Vallombreuse, malgré sa beauté, avait une tête plus horrible et formidable que celle de Méduse. Une pâleur affreuse couvrait son visage. Ses narines palpitaient comme aspirant le carnage. Il s'élança vers Sigognac, qui ne rompit pas d'une semelle, attendant l'assaut. Mais tout à coup, il s'arrêta. Une réflexion soudaine éteignit comme une douche d'eau glacée sa bouillante frénésie. Ses traits se remirent en place. Il venait de penser que son adversaire n'était pas né et qu'il avait failli se commettre avec un histrion. L'insulte partie de si bas ne pouvait l'atteindre. Ce bâton avec la boue qui vous éclabousse? Cependant, il n'était pas dans sa nature de laisser une offense impunie d'où qu'elle vint, et se rapprochant de Sigognac, il lui dit « Drôle, je te ferai rompre les os par mes laquais. » « Prenez garde, monseigneur, » répondit Sigognac du ton le plus tranquille, « prenez garde, j'ai les os durs et les bâtons s'y briseront comme verre. » Je ne reçois de volées que dans les comédies. Quelqu'insolent que tu sois, Marot, je ne te ferai pas l'honneur de te battre moi-même. C'est une ambition qui passe tes mérites, dit Valombreuse. C'est ce que nous verrons, monsieur le duc, répliqua Cigognac. Peut-être bien, ayant moins de fierté, vous battrai-je de mes propres mains. Je ne réponds pas à un masque, fit le duc. Je vous montrerai mon visage, duc, en lieu et temps opportun, reprit Cigognac, et je crois qu'il vous sera plus désagréable encore que mon faux nez. Mais brisons-la. Aussi bien j'entends la sonnette qui tinte, et je courrai risque, en tardant davantage, de manquer mon entrée. L'émotion d'Isabelle avait été si vive qu'à peine pouvait-elle se tenir sur ses jambes. Être l'occasion d'une querelle était profondément désagréable à la douce, bonne et modeste Isabelle, qui ne redoutait rien tant que le bruit et l'éclat qui se font autour d'une femme, la réputation y perdant toujours. D'ailleurs, elle aimait tendrement Cigognac, et la pensée d'un guet-apens, ou tout au moins d'un duel, à quoi il était exposé, la troublait plus qu'on ne saurait dire. Peu après, Cigognac révèle à Valombreuse son origine noble et le provoque en duel. Lors de la confrontation, le baron blesse son rival au bras. Vainqueur, le capitaine Fracasse attire les foules lors des représentations de la troupe.
Jurez-moi que vous ne vous battrez plus pour moi. Plus jamais, vous m'entendez?
Non. Ce serment-là, je refuse de le faire. Je vous l'ai dit hier soir, Isabelle. Moi, vivant, je châtirai quiconque vous manquera l'égard. Oh,
si vous aviez été tué, je crois que je serais morte.
Enfin arrivés à Paris, les comédiens connaissent un véritable triomphe. Mais le duc de Valombreuse les a suivis et tente en vain de faire assassiner Cigognac. Un jour pourtant, victime d'une embuscade, Isabelle est enlevée en pleine rue sous les yeux de son protecteur. En captivité, la belle comédienne reçoit l'aide inespérée d'un personnage qu'elle a déjà rencontré, Chiquita, la petite bohémienne, qui lui vaut une pieuse admiration. Pour réparer ses fautes passées, celle-ci a contacté Cigognac, qui vole bientôt au secours de sa bien-aimée. Nous voici dans le donjon du château des Valombreuses, nous approchons du dénouement final. Quoi que vous fassiez, vous m'aimerez, de gré ou de force, parce que je le veux, parce que vous êtes jeune et belle et que je suis jeune et beau. Est-ce donc un si grand malheur, après tout, que d'être éperdument aimé du duc de Valombreuse? Ce malheur ferait la félicité de plus d'une. Vous n'aurez jamais de moi que mon cadavre. Vous m'étiez indifférent. Je vous hais pour votre conduite outrageuse, infâme et violente. Oui, j'aime Cigognac que vous avez essayé à plusieurs reprises de faire assassiner.
Ah, tu aimes Cigognac, tant mieux. Il ne m'en sera que plus doux de te posséder. Quel plaisir de baiser des lèvres qui vous disent « je t'abhorre ». Cela a plus de ragoût que cet éternel et fat « je t'aime » dont les femmes vous écœurent.
Effrayée par la résolution de Valombreuse, Isabelle s'était levée et avait retiré de son corset le petit couteau que lui avait donné Chiquita. Sans plus se soucier de la lame que d'un aiguillon d'abeille, le duc s'avança vers Isabelle, qu'il saisit entre ses bras avant qu'elle eût le temps de lever son arme. Au même instant, un craquement se fit entendre, suivi bientôt d'un fracas horrible. La fenêtre, comme si elle eût reçu par dehors le coup de genou d'un géant, tomba avec un tatamarre de carreaux pulvérisés dans la chambre où pénétrèrent des masses de branches formant une sorte de catapulte chevelue et de pont levant. C'était la cime de l'arbre qui avait favorisé la sortie et la rentrée de Chiquita. Le tronc, scié par Cigognac et ses camarades, cédait aux lois de la pesanteur. Il devait jeter un trait d'union au-dessus de l'eau des douves, de la berge de la rive, à la fenêtre d'Isabelle. Valombreuse, surpris de l'éruption soudaine de cet arbre se mêlant à une scène d'amour, lâcha la jeune actrice et mit l'épée à la main, prêt à recevoir le premier qui se présenterait. Chiquita, qui était entrée sur la pointe du pied, légère comme une ombre, tira Isabelle par la manche et lui dit « Abris-toi derrière ce meuble, la danse va commencer !» La petite disait vrai. Quatre gardes armés du duc accoururent dans la chambre pour soutenir l'assaut et porter aide à Valombreuse. « Sauvez-moi !» cria Isabelle d'une voix faible, se sentant à bout de force. « Sauvez-moi, Cigognac !» Un bruit de branches froissées se fit entendre et une forte voix qui semblait venir du ciel jeta dans la chambre ces mots. « Me voici !» Et avec la vitesse de l'éclair, une ombre noire passa entre les quatre gardes, poussée d'un tel élan qu'elle était déjà au milieu de la pièce, lorsque quatre détonations de pistolets éclatèrent presque simultanément. Des nuages de fumée se répandirent en épais flocons qui cachèrent quelques secondes le résultat de ce feu quadruple. Quand ils furent un peu dissipés, les gardes virent Cigognac, ou pour mieux dire le capitaine Fracasse, car ils ne le connaissaient que sous ce nom, debout, l'épée au poing, et sans autre blessure que la plume de son chapeau coupé. Mais Isabelle et Valombreuse n'étaient plus là. Le duc avait profité du tumulte pour emporter sa proie à moitié évanouie. Une porte solide, un verrou poussé, s'interposait entre la pauvre comédienne et son généreux défenseur, déjà bien empêché par cette bande de bretteurs qu'il avait sur les bras. « Misérable ! Oui, Isabelle ! Cria Cigognac. « J'ai tout à l'heure oui sa voix !» Heureusement, vive et souple comme une couleuvre, Chiquita s'était glissée dans l'entrebâillement de la porte sur les pas du duc et faisait signe à Cigognac. Celui-ci entra, parcourant de l'œil la salle faiblement éclairée par la lueur vacillante d'une petite lampe. Il ne l'aperçut point d'abord. Le duc de Vallombreuse, surpris par la brusque ouverture des battants, s'était acculé dans un angle, plaçant derrière lui la jeune comédienne à demi pâmée d'épouvante et de fatigue. Les ferrets de son corsage étaient brisés, tant elle s'était désespérément tordue entre les bras de son ravisseur, qui, sentant sa proie lui échapper, avait essayé vainement de lui dérober quelques baisers lascifs, comme un faune poursuivi entraînant une jeune vierge au fond des bois.
« Elle est ici, dans ce coin, derrière le seigneur Vallombreuse. Mais pour avoir la femme, il faut tuer l'homme !»
Qu'à cela ne tienne, je le tuerai, fit Cigognac en avançant l'épée droite vers le jeune duc déjà tombé en garde.
C'est ce que nous verrons, monsieur le capitaine Fracasse, chevalier des bohémiennes, répondit le jeune duc d'un air de parfait dédain.
Les fers étaient engagés et se suivaient en tournant autour l'un de l'autre, avec cette lenteur prudente qu'apporte aux luttes qui doivent être mortelles les plus habiles de l'escrime. Au même instant, un bruit tumultueux de pas qui approchait se fit entendre. Un panneau de la boiserie s'ouvrit avec fracas et 5 ou 6 laquais armés se précipitèrent impétueusement dans la salle.
« Emportez cette femme !» leur cria Vallombreuse. « Et chargez-moi ces drôles ! Je fais mon affaire du capitaine !»
Et il courut sur lui l'épée haute. L'irruption de ces marauds surprit Cigognac. Il serra un peu moins sa garde car il suivait des yeux Isabelle tout à fait évanouie que 2 laquais protégés par le duc entraînaient vers l'escalier et l'épée de Vallombreuse lui effleura le poignet. Rappelé au sentiment de la situation par cette éraflure, il porta ensuite au duc une botte à fond qui l'atteignit au-dessus de la clavicule et le fit chanceler. Blessé, Vallombreuse s'adossa au mur et s'appuya sur la garde de son épée, la figure couverte d'une pâleur blafarde.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Hush, child, let your mommy sleep into the night until we rise. Hush, child, let me soothe the shining tears that gather in your eyes. I'll stay with you to cross this bridge of sighs. Hush, child, I can't help the look of accusation in your eyes. In your eyes, the world is broken. child, let your mommy sleep into the night until we rise. Hush, child, all the strength I need to fight I'll find inside your eyes.
Maniant les coups de théâtre comme d'autres les coups d'épée, Théophile Gautier s'amuse à introduire un ultime rebondissement dans l'histoire. Le combat est interrompu par l'arrivée soudaine d'un nouveau personnage, le prince de Vallombreuse, père du jeune duc, qui fait des révélations inattendues. S'il perd un fils, le brave homme se réjouit de retrouver Isabelle, qui n'est autre que sa fille, née d'un amour de jeunesse avec une comédienne.
Dites-moi, mon enfant, cette bague vous appartient-elle ?
Oui, monseigneur.
Et de qui la tenez-vous ?
De ma mère, Cornélia.
Mon intuition ne m'avait donc pas trompé, chevalier. Il y a encore des miracles. Oui, des miracles, Isabelle. Votre mère et moi, nous nous sommes beaucoup aimés autrefois. Et je ne puis plus douter que vous soyez mon enfant. Je vous ai fait rechercher pendant des années, en vain. Il faut que ce soit mon autre enfant, mon fils, indigne celui-là de moi et du nom qu'il porte. Je parlais de vous, monsieur, et je vous jugeais à vos mérites. J'ai toujours pardonné toutes vos incartades, mais aujourd'hui je ne trouve aucune excuse à un crime aussi froidement prémédité.
S'il survit à sa blessure, l'orgueilleux duc ne peut donc courtiser Isabelle, qui se trouve être sa sœur. Vous devinez la suite et la fin heureuse de ce récit qui s'achèvera, comme toutes les comédies, par un mariage et la fortune retrouvée. Mais revenons à l'instant du duel final. Tout le monde croit le jeune duc de Vallombreuse mort sous les coups de Cigognac. Bouleversée par un tel revers du sort, Isabelle est invitée à rester vivre auprès de son père. C'est l'instant de la séparation et la morale de l'histoire revient à Hérode, le directeur de la troupe. Le ton épique du roman cède alors la parole au vrai sujet du roman, le théâtre. Là-dessus, Cigognac fit au prince un salut et lançant à Isabelle un long regard chargé d'amour et de regret, descendit les marches de l'escalier, suivi de Scapin et d'Hérode, non sans retourner plus d'une fois la tête, ce qui lui permit de voir la jeune fille appuyée contre la rampe, de peur de défaillir, et portant son mouchoir à ses yeux pleins de larmes. Était-ce la mort de son frère ou le départ de Cigognac qu'elle pleurait ? Nous pensons que c'était le départ de Cigognac. La version que lui inspirait Vallombreuse n'ayant point encore eu le temps de se changer en elle, en tendresse à cette révélation de parenté subite. Du moins, le baron, quelque modeste qu'il fût, en jugea ainsi, et chose étrange que le cœur humain, s'éloigna consolé par les larmes de celle qu'il aimait. Cigognac et sa troupe sortirent par le pont-levis pour aller reprendre leurs chevaux dans le petit bois où ils les avaient laissés. Les chevaux n'avaient point bougé de leur couvert et bientôt enfourchés par leurs cavaliers, ils reprirent allègrement la route de Paris. « Que vous semble, monsieur le baron, de tous ces événements ?» disait Hérode à Cigognac qui cheminait botte à botte avec lui. « Cela s'arrange comme une fin de tragicomédie. Qui se fût attendu au milieu de l'Algarade à l'entrée seigneuriale de ce père précédé de flambeau et venant mettre le holà au fredaine un peu trop fort de monsieur son fils ? Et cette reconnaissance d'Isabelle au moyen d'une bague à cachet blasonné, ne l'a-t-on pas déjà vue au théâtre ? Après tout, puisque le théâtre est à l'image de la vie doit lui ressembler comme un original à son portrait. Hélas, languit Cigognac, malheureux que je suis, ce sang que j'ai versé pour la défense d'Isabelle, c'était le sang fraternel. Quand bien même elle me pardonnerait, le prince, son père, repoussera en le maudissant les avances du meurtrier de son fils. Oh, je suis né sous une étoile enragée. Tout cela est sans doute fort lamentable, répondit Hérode. Mais les affaires du Cid et de Chimène étaient encore bien autrement embrouillées, comme on le voit en la pièce de Monsieur de Corneille. Et cependant, après bien des combats entre l'amour et le devoir, elles finirent par s'arranger, à l'amiable. Non sans quelques finesses un peu forcées par le goût espagnol, mais d'un bon effet au théâtre. Les choses prendront peut-être une meilleure tournure que vous ne pensez. Que Dieu le veuille, mon bon Hérode. Ce à quoi il faut aviser promptement, c'est de quitter Paris et gagner quelques retraites où l'on m'oublie. Je m'en retourne à mon castel où, je l'espère, mon vieux et fidèle serviteur Pierre sera heureux de me revoir.
ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Pierrick Charles, a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.